Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Bonjour Henri Moiset.
Bonjour.
Alors cette année, nous commémorons le cinquantenaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. C'était le 19 mars 1962. Est-ce que vous pouvez nous resituer cette date, la remettre en perspective ?
Oui, et la remettre en perspective, surtout pour nos contemporains. Oui, 50 ans déjà que le cessez-le-feu, le 19 mars 1962, intervenait en Algérie. Et mettait fin à 8 années d'abord de maintien de l'ordre, de pacification ensuite, en fait de guerre tout simplement. Une guerre qui ne voulait pas dire son nom. Cela mettait fin à 8 années terribles, où la République, la 4e d'abord et la 5e qui suivit, eurent les pires difficultés. C'est vrai que ces 8 années ont donné lieu à des appréciations, et c'est rare dans notre histoire, toujours négative. Ne parle-t-on pas de guerre sans nom, de sale guerre, de drame algérien, quand ce n'est pas de bourbier algérien. Donc le malaise historique se retrouve encore de nos jours dans les mémoires. Que de division, que de rancœur, que d'amertume même en ont découlé. Et on peut dire que, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais longtemps l'Algérie a été au cœur du débat politique et a donné lieu, ici ou là, à des instrumentalisations grossières. Pourtant, le 19 mars n'est pas une célébration. On peut parler évidemment de défaite pour nous Français, encore que la commémoration s'impose pour rendre hommage à tout ce qui a été fait par les soldats, et souvent des soldats citoyens. Mais, il est vrai, c'est un passé qui ne passe pas, qui alimente les polémiques, et qui, justement, n'arrive pas à dégager ou à provoquer un consensus mémoriel, je dirais global, qui satisfasse tout le monde. On est toujours dans une impasse, je crois, et parler de l'Algérie est une nécessité, si l'on veut, peu à peu, réfléchir à notre histoire et voir quelles solutions pour l'avenir.
Alors, l'Algérie, finalement, c'est quoi
Alors, l'Algérie faisait partie de nos colonies jusqu'au moment où, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, face à une situation difficile marquée par la révolte de Sétif, et la date n'est pas neutre, le 8 mai 45. Et après une répression féroce, on décide de réformer le statut de l'Algérie. Cette Algérie qui devient terre départementalisée, 3 départements, qui bénéficiera d'un statut, celui de 1947, et qui est très proche de la métropole. D'ailleurs, il n'est que de rappeler la place que l'Algérie joue pendant la Seconde Guerre mondiale et même pour la France libre qui a été accueillie à Alger. Malheureusement, cette réforme de 1947 est mal appliquée. Elle est même, on peut dire, volontairement sabotée. Il y a un dualisme permanent. On distingue les Européens des indigènes. S'ils ont en théorie, le droit de vote, il y a 2 collèges distincts, si bien que, de par leur nombre, les Algériens, les musulmans, sont sous-représentés par rapport aux Européens. Et donc, on est dans une situation évidemment conflictuelle, de par ce dualisme à la fois politique, qui ne satisfait pas les revendications des indigènes, il y a une injustice économique, et surtout une infériorité sociale marquante. Et le résultat est que l'on ne comprend pas la montée des nationalismes qui vont se constituer, on ne voit pas venir le rôle nouveau que joue ce FLN et son esprit révolutionnaire, et sa, la mise en, en opposition d'ailleurs du colonialisme, et on ne voit surtout pas arriver le 1er novembre 1954 la Toussaint Rouge ou le FLN. En prenant évidemment une décision nouvelle, en rupture avec les anciens nationalismes, lance l'insurrection, une véritable révolution sanglante.
Quelle est la réaction du gouvernement à ce moment-là ?
Alors, la réaction du gouvernement, elle est celle que, je crois, beaucoup de Français attendaient. Le gouvernement Pierre Mendès France dit « la seule négociation, c'est la guerre ». Il n'est pas question d'engager quoi que ce soit comme négociation avec le FLN. Et le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, a cette formule célèbre « l'Algérie, c'est la France ». Autrement dit, il n'est pas question de remettre en cause la notion même d'une Algérie française. Dire que la seule solution c'est la guerre, eh bien ça veut dire qu'on envoie des soldats, on envoie des gardes mobiles, des gendarmes, et on entre dans un processus qui se veut maintien de l'ordre, mais qui progressivement va devenir une véritable guerre. Et désormais, il y a trois éléments qui vont cohabiter. La politique de Paris, le blocage et les craintes des Français dits d'Algérie, des pieds noirs, qui ne veulent surtout pas perdre quoi que ce soit de leur terre, car ils considèrent qu'ils sont chez eux, et de ce nationalisme insurrectionnel, le FLN, qui va s'appuyer progressivement sur un environnement international qui lui est favorable. La conférence de Bandung et la naissance du tiers-monde, et surtout le panarabisme, avec à partir de 1956, l'apport et le soutien de pays comme l'Égypte ou les nouveaux pays indépendants que sont la Tunisie et le Maroc voisin.
Le soir, à l'écoute du journal parlé ou télévisé, vous posez la même question. Quelles sont les nouvelles d'Algérie ? La même question que je me pose aussi à chaque heure. La même question qui revient dans les délibérations du gouvernement. Qui de vous, qui de nous n'a un fils, un fiancé, un mari, un parent, un ami là-bas ? Ils s'y trouvent menacés dans leur vie, séparés de leur famille, inquiets peut-être aussi de la situation matérielle de ceux qu'ils ont laissés au pays, ceux d'Algérie aussi, qui ont la charge d'assurer la sécurité publique, vivent dangereusement. La pensée de tous ces hommes ne me quitte plus, pas plus que celle des Européens d'Algérie, dont je sais l'inquiétude et les périls, pas plus que celle de tous les musulmans d'Algérie, qui sont devenus nos frères en combattant et en mourant à nos côtés durant deux guerres mondiales. La volonté du gouvernement, sa tâche essentielle, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Le sang des Européens comme celui des musulmans. Et que faire pour cela ?
Alors on vient d'entendre un discours de Guy Mollet, discours qui date du 1er février 1956. C'était d'ailleurs à l'occasion de l'investiture de son gouvernement, peu de temps après.
Oui, et je vous remercie d'avoir choisi cet extrait d'une allocution de Guy Mollet, parce qu'elle est révélatrice, je dirais, de cette période. On est le 1er février 1956, cela fait déjà plus d'un an et demi que la guerre, le maintien de l'ordre guerrier a commencé. Et le front républicain que préside Guy Mollet, il est chef du gouvernement, est attaché à ce que l'Algérie reste française. On voit déjà la cécité que même des gens de gauche semblent être atteints. Le 1er février 1956, on est déjà dans ce qu'il faut bien appeler l'enlisement en Algérie. Et la question finale de Guy Mollet, mais que faire pour cela, pour mettre un terme aux tueries, pour éviter que le sang ne coule? Eh bien tout cela correspond, qu'on le veuille ou non, à cette idée que l'Algérie doit encore rester française. Au demeurant, déjà les premières préoccupations, les premières interrogations, les premières contestations apparaissent. Déjà au sein même du gouvernement Guy Mollet, des voix s'élèvent. Hein, surtout lorsque Guy Mollet décide, quelques semaines plus tard, d'envoyer le contingent. C'est un tournant dans la guerre. Des inquiétudes s'élèvent aussi dans les Français d'Algérie, qui se demandent bien quelle politique ce nouveau gouvernement, qui est un gouvernement de gauche, disons la majorité SFIO, socialiste dirions-nous aujourd'hui, entend mener. Et lorsque 6 ou 7 jours plus tard, après ce discours Guy Mollet va en Algérie, il est reçu d'une façon véhémente par des tomates. Hein. C'est dire que déjà à l'enlisement militaire s'ajoute une incompréhension naissante entre Paris et Alger. D'autant que, au même moment en 1956, et là Guy Mollet n'est absolument pas responsable ni coupable, l'affaire algérienne s'internationalise et nos auditeurs doivent savoir, mais beaucoup le savent déjà, que cette internationalisation du problème algérien nous dépasse et va amener la France à intervenir à Suez contre l'Égypte, puis plus tard à affronter, je dirais d'une manière moins grave, la Tunisie ou le Maroc dans des affaires politico-militaires. Et c'est vrai que, malgré tout, à partir de 1957, bon, Guy Mollet aura, comme tant d'autres, démissionné de son poste de président du Conseil. Les successeurs de Guy Mollet, qu'il s'agisse de Bourgès Monoury, qu'il s'agisse de Félix Gaillard ou encore de Flimelin, n'arriveront pas, parce qu'on est dans une impasse, à trouver de solutions qui fassent un consensus. Il y a toujours cette interrogation du gouvernement, mais que faire pour éviter que le drame se poursuive? Il y a ce refus des Français d'Algérie de toute réforme ou d'envisager toute solution négociée ou pacifique qui mettrait en cause leur statut et leur histoire. Et il y a surtout un FLN qui, fort de l'appui international, entend évidemment marquer des points sur le terrain et donc amener à un rapport de force qui lui soit favorable. Autrement dit, on est entré dans une situation qui gangrène toute la vie de la politique de la 4e République, et pourtant sur le terrain militairement, on est en position de force. Et là, il y a un paradoxe que les historiens, évidemment, analysent. On est en train, semble-t-il, de gagner cette guerre. Après le plan Salan et le quadrillage du territoire, après la bataille d'Alger, avec les méthodes que l'on sait du général Massu, avec même le prochain plan Châle, on était en position pour gagner cette guerre. Et c'est à ce moment-là que la situation va non plus s'enliser, mais se détériorer. Le bourbier algérien va entraîner la fin de la 4e République.
Et De Gaulle va rentrer en scène. Alors en quoi l'Algérie pèse-t-elle différemment justement sur l'arrivée de De Gaulle?
Elle pèse d'abord beaucoup par la crise de mai, le fameux 13 mai, où l'armée, car c'est elle, pour la première fois depuis le milieu du 19e siècle, intervient dans le domaine politique. Cette crise de mai est liée à la crainte d'une partie de l'armée et des Français d'Algérie de voir s'ouvrir les négociations, d'éventuelles négociations avec le FLN. Négociations que le tout nouveau et très éphémère gouvernement Flimelin entendait, semble-t-il, engager. Et l'armée se révolte, c'est le fameux putsch d'Alger, le comité de salut public créé par Massu, l'appel au général de Gaulle, qui reste dans l'ombre et qui, après quelques semaines d'hésitation, mais il semble que le choix avait été déjà fait, accepte le pouvoir qui lui tombe dans les mains et qui lui est proposé par le président de la République, René Coty. À ce moment-là, les ralliements sont massifs. On est bien dans une impasse. Hein. De Gaulle n'est encore que nouveau chef, après investiture du Parlement, que chef de gouvernement. On est toujours dans la quatrième, mais il sait déjà qu'il va changer de constitution et promouvoir une nouvelle République. Reste que l'arrivée de Gaulle au pouvoir ne règle pas le problème algérien. Le boulet algérien continue, mais il y a là une équivoque, peut-être même une ambiguïté. Chacun voit dans le retour de Gaulle aux affaires, je vous rappelle qu'il avait quitté le pouvoir en 1946, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Certains y voient la marque et surtout la permanence de l'Algérie française, dont la poursuite de la guerre. D'autres peut-être espéraient, notamment certains OFLN, semble-t-il, la fin de la guerre et une négociation possible.
Alors, il y a un discours célèbre de De Gaulle qu'il a tenu au Forum d'Alger. C'était le 4 juin 1958. Petit rappel.
Je vous ai compris. Je prends acte au nom de la France. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière.
Et oui, voilà toujours cette équivoque qui apparaît, mais qu'évidemment une relecture de l'histoire fait mieux apparaître. Est-ce que De Gaulle avait déjà fait preuve de réalisme ou de cynisme? En tout cas, il rassure évidemment l'armée qui est à ses côtés. Il rassure les Français d'Algérie et il maintient ce qui est, je dirais, de vrai depuis longtemps, cette idée que l'Algérie restera française. Or, très vite, le boulet algérien semble évident à De Gaulle, s'il tentait qu'il ne l'ait déjà perçu avant. Et il a choisi, on le sait maintenant, d'engager une autre politique. C'est le pragmatisme du général De Gaulle, mais qui le conduit à changer de vocabulaire. Il ne s'agit plus de dire qu'il n'y a que des Français en Algérie, que l'Algérie restera française. Il engage un processus qui, à terme, allait être déterminant, c'est l'autodétermination. Reconnaître, en fait, que le peuple algérien a le droit à décider de son avenir. Ce discours de septembre 59 va évidemment ouvrir une porte nouvelle. On est loin du discours de Constantine qui promettait le développement économique, l'évolution sociale, les améliorations dans le cadre d'une France regroupant la métropole et l'Algérie. Avec l'autodétermination, on engageait, qu'on le veuille ou non, une possible voie vers l'indépendance, même si on n'y croyait pas, même si on refusait de l'envisager. Il est vrai que à partir de 59, on est dans une situation nouvelle. Hein. Même en France, des voix continuent, certes elles sont minoritaires, mais continuent à exprimer leur désaccord avec la poursuite de la guerre. Certains ne font pas que critiquer. Ce n'est pas que des gens de gauche, hein. Il y a aussi des gens de droite, des démocrates chrétiens, des gens de droite qui pensent qu'il faut penser à autre chose. Il y a ceux qui, en France, soutiennent le FLN, les porteurs de valises. On voit même des gens qui aident le FLN d'une façon forte, et ce sera le réseau Janson qui, démantelé, sera évidemment poursuivi devant les tribunaux. En fait, on peut se demander pourquoi. Pourquoi De Gaulle, dès 59, accepte-t-il de remettre en cause sa politique algérienne ? En envisageant l'autodétermination et à terme l'indépendance. C'est parce que peut-être qu'il a compris que l'Algérie, ce qu'il appelait la boîte à chagrin, était devenue un boulet qui empêcherait la France d'avoir d'autres perspectives, de participer à une véritable construction de l'Europe, d'avoir une autre vision du monde. Et là, il a fait, en tant que chef d'État, un choix de grand président de la République. On peut en contester le fondement, mais il y avait une vision pour la France. Reste qu'à ce moment-là, par ce choix, il crée une situation vraiment de conflit. À partir du moment où il parle d'autodétermination, une partie de l'armée commence à douter. Les Français d'Algérie entrent véritablement dans un désaccord profond, dans une opposition. Et on connaît la suite. En janvier 60, c'est la semaine des barricades. Ce qui veut dire que l'Algérie, au-delà de la guerre contre le FLN, est au bord de la guerre civile. La radicalisation des ultras de l'Algérie française allait avoir une première grave conséquence, c'est que le voyage de De Gaulle en Algérie en décembre 60 se passe très mal. On est déjà au bord de l'abîme.
Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français, aidez-moi.
Allocution donc du général de Gaulle du 23 avril 1961, juste après le putsch.
Oui, ce putsch du 22 avril 1961 marque un véritable tournant. Puisque pour la première fois depuis le 19e siècle, j'y reviens, une partie de l'armée ose défier le pouvoir, car c'est de cela dont il s'agit. L'armée d'Algérie, un quarteron de généraux en retraite, dit De Gaulle, Charles Zeller, Salan et Jouot, ont osé désobéir et se révolter. Une partie de l'armée a suivi, très peu du contingent, ce sont souvent des régiments de professionnels. C'est un tournant, mais en même temps, pour la première fois, on découvre l'efficacité de l'arme constitutionnelle que représente le référendum. Car De Gaulle, dans son évolution, a toujours pris soin de faire approuver par référendum les nouvelles orientations, et donc cela lui a permis de répondre aux soubresauts et aux difficultés du moment que représentait la gestion de la guerre d'Algérie. Seulement, le putsch de 61, s'il est réduit militairement, a une conséquence politique, c'est de donner naissance à une organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui va engager contre le pouvoir une véritable guerre terroriste par des attentats, par des assassinats, d'abord en Algérie, ensuite en France. Mais cela va créer évidemment une terrible tragédie, puisque désormais, un nouvel intervenant dans ce conflit algérien, outre le pouvoir politique, outre l'armée restée fidèle au pouvoir, outre l'ennemi, l'adversaire sur le terrain qu'est le FLN, s'ajoute un autre ennemi difficile à gérer, c'est ces désespérés de l'Algérie française qui vont engager une véritable terreur, à la fois en Algérie, mais aussi en métropole. Et je rappelle que, et je crois que deux exemples suffisent pour montrer la difficulté du moment. Lorsque le FLN, manipulant, car il faut bien parler de cela comme, il faut le présenter comme une manipulation, les Algériens de France appellent à manifester le au mois de le 17 et le 18 octobre 1961. Cela donne une véritable tragédie à Paris. Il faut bien parler de massacre. La police est dépassée. Et là, on voit comment le FLN manipule et joue sur le terrain politique. Et lorsque des Français manifestent contre l'OAS, quelques mois plus tard, le 8 février 62, eh bien, c'est une nouvelle, c'est la fameuse tragédie du métro Charonne. Et là encore, le sang coule, mais c'est du sang français tué, enfin, pardon, provoqué par des policiers français. On est là vraiment dans ce qui pourrait ressembler à un début de guerre civile. Et pourtant, en sous-même, en secret, des négociations, des pourparlers qui avaient été supputés dès 59, qui avaient donné lieu à des rencontres difficiles, préparatoires, arrivent progressivement à un résultat et à faire espérer une fin possible de ce conflit algérien.
Comment sort-on de ce conflit, justement ?
Ouais, eh bien, il faut évidemment là revenir au 19 mars 62, qui est le point de départ de notre propos. On en sort difficilement, car si nous utilisons la date du 19 mars comme repère, c'est-à-dire la date du cessez-le-feu, ces accords déviants qui sont enfin signés le 19 mars ne sont qu'un long et difficile aboutissement de, je l'ai rappelé il y a un instant, de rencontres, de pourparlers préparatoires, dont certains avaient eu lieu sous la 4e à Belgrade, d'autres à Londres, d'autres enfin en Suisse, pour aboutir, et ce sont les accords d'Évian, le 18 mars. Alors, de quoi s'agit-il dans cet accord ? D'abord, la France croit avoir obtenu du FLN des garanties pour ses Européens, pour les ressortissants français, européens d'Algérie. Deuxième élément, on obtenait la possibilité pendant 3 ans d'une présence militaire. Et enfin, on pensait avoir sauvé l'essentiel avec la préservation des intérêts économiques, notamment sur le Sahara, qui avait été un des points d'achoppement et qui avait fortement retardé, évidemment, la signature des accords. Autrement dit, c'était un accord qui pouvait être viable, à condition d'oublier, tout ce qui, pendant un siècle, avait été commis en Algérie, à condition d'oublier le contexte international et surtout d'oublier que la déchirure était profonde entre la population musulmane et la métropole française. Donc ces accords sont signés, mais il faut bien voir que les conséquences sont terribles. Là, la déchirure, ça se traduit par une vendetta, il faut bien rappeler ce mot, tous azimuts, puisque l'OAS continue d'œuvrer de manière terrible, politique de la terre brûlée, manifestation qui tourne mal, la rue d'Isly, où l'armée française tire sur d'autres Français. On voit bien dans quel climat de violence, d'incompréhension on est. Vendetta aussi de la part du FLN qui menace les Européens tentés de rester, la fameuse formule « la valise ou le cercueil ». Il faut aussi penser aux harkis, nos supplétifs musulmans qui étaient des auxiliaires de l'armée et que de fait on va passablement abandonner. Et tout cela va se traduire par, première conséquence, des accords d'Évian qui sont mal appliqués, peu appliqués, en tout cas qui débouchent sur des drames. Le retour brutal d'un million d'Européens dans les conditions d'impréparation, puisqu'il n'était pas prévu qu'ils reviennent. Et surtout, dit d'organisation, avec les, souvenons-nous, des scènes parfois difficiles à supporter à Marseille, où ces gens sont totalement déracinés. Il faut voir aussi comment on accueille ces quelques harkis, puisqu'on abandonne une forte majorité à leur sort, c'est-à-dire au règlement de compte. Comment on les accueille sur le Larzac, où 5800 harkis sont en quelques jours accueillis sur le camp. Ils sont arrivés, et sur les 5600 harkis, hommes et femmes, il y a 1800 enfants de moins de 8 ans, autrement dit, une difficulté à intégrer tous ces jeunes. Et dans ce contexte-là de douleur, de déracinement, d'incompréhension, de désespoir, il y a effectivement aussi l'OAS qui continue, envers et contre tout, à avouer à De Gaulle, à pourchasser De Gaulle de sa haine, et le point critique, c'est l'attentat du Petit Clamart, qui évidemment va permettre d'ailleurs à De Gaulle de renforcer le pouvoir présidentiel, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il souhaite, à ce moment-là, suite à cet attentat, manquer une élection du président de la République au suffrage universel qui n'interviendra qu'en 1965. C'est dire combien la page fut douloureuse à tourner, encore que l'on peut dire qu'elle ne l'a pas été totalement.
Oui, alors justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore on a du mal à appréhender cette guerre d'Algérie ?
Bien, je crois que d'abord, notre mémoire est marquée par la honte. Et on a toujours ce sentiment d'avoir fait une guerre inutile, une guerre pour rien, puisqu'en fait, cela n'a pas empêché l'indépendance de l'Algérie. Alors le problème n'est pas de savoir si on pouvait continuer la guerre longtemps, si l'indépendance était inéluctable ou pas. L'indépendance a été proclamée, elle intervient officiellement le 4 juillet 1962, dans les délais prévus par les accords d'Évian. Un point, c'est tout, on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Par contre, le bilan, on peut l'établir, mais il est très difficile. Difficile parce qu'on manque d'éléments. Et les certitudes quant aux pertes, quant aux coûts, quant aux conséquences directes ou indirectes, cette quantification n'est pas aisée. D'abord, les pertes humaines, 30 000 morts dans l'armée française ou dans les forces de maintien de l'ordre, c'est lourd, c'est noté, c'est rappelé chaque année. C'est 3 600 civils. Portés, qui ont été massacrés, civils européens, ou portés disparus. C'est au moins 30 000 supplétifs qui sont morts, comme nos soldats, dans des combats ou dans des opérations de maintien de l'ordre. Alors, peut-on chiffrer globalement ? Bon, le FLN, lui, a toujours parlé de 1 million de morts dans ses rangs. Maintenant même, on parle de 1,5 million. C'est un chiffre qui n'a aucun, c'est un nombre qui n'a aucune base statistique réelle. Cela relève du slogan ou, je dirais, de la manipulation. En tout cas, parler de 400 000 morts minimum, 500 000 sans doute, reste plausible. Deuxième aspect, le coût financier, impossible à chiffrer. On sait que les dernières années, la guerre d'Algérie nous a coûté à peu près 10 milliards de francs de l'époque, hein, par an. Donc 50, 60, 100 milliards de francs, c'est du domaine possible. Le désastre humain est beaucoup plus dramatique, en définitive, parce que là, la quantification est plus forte. On sait que pour 1 million de Français de pieds noirs, le retour a été plus que difficile et la réinsertion douloureuse. On sait surtout que pour les harkis, l'intégration, l'assimilation dans notre métropole a été chose parfois inhumaine. On leur a réservé difficulté de les loger, difficulté de leur trouver de l'emploi. Et ce ne sont pas des hameaux forestiers ou des emplois de bien mauvaise ou sans qualification qui ont été des solutions. D'où la rancœur aujourd'hui parfois de la deuxième et surtout de la troisième génération. Ce qu'il faut aussi évoquer, c'est que les accords étant mal appliqués, il y a eu, pour ceux qui étaient des Européens qui étaient restés en Algérie, il y a eu encore 2700 personnes portées mortes ou disparues pour des raisons diverses. Ce qui veut dire donc qu'il y a encore une souffrance supplémentaire, comme des soldats sont encore morts, des soldats français, entre le 19 mars et le 4 juillet 1962. Les conséquences politiques, on peut aussi les évoquer. Ça a été une déchirure, un déchirement qui n'est pas simplement entre la droite et la gauche. C'est une déchirure qui est passée par les deux camps politiques. Et même encore, on a des traces politiciennes de la guerre d'Algérie.
On a une image brouillée, finalement, aujourd'hui. Pourquoi ?
Oui, et ce sera peut-être un peu la conclusion de cette émission, ou de ce rappel. Oui, ce souvenir de la guerre d'Algérie n'est pas chose facile, et parler d'images brouillées, me semble, est une bonne métaphore. Un historien a parlé d'une mémoire entre la gangrène et l'oubli. L'oubli est difficile. On voit mal comment on pourrait passer pour pertes et profits 3 millions de Français qui ont combattu dans les conditions qui furent celles qu'on leur a imposées. Ces gens-là ont souffert, certains sont morts, beaucoup ont gardé des séquelles, des cicatrices qui n'arrivent pas à disparaître. Alors c'est vrai que pour les combattants, d'abord qu'ils aient été de métier ou du contingent, on sent de la rancœur, pour certaines des frustrations, pour d'autres en tout cas une culpabilisation. Pourquoi nous a-t-on fait faire cela ? À quoi tout cela a servi ? Que signifie cette guerre ? Et c'est là un des points d'achoppement sans doute pour notre mémoire. On a fait une guerre dont aujourd'hui on ne donne pas de sens, à qui on n'arrive pas à trouver un sens, comparativement à d'autres. Alors c'est vrai que la frustration vient, je l'ai indiqué dans les faits, peut-être de ce sentiment qu'a eu l'armée à un moment donné, ou qu'ont eu les soldats, qu'ils gagnaient la guerre. Et ce qui n'est pas faux, au demeurant. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a eu un sentiment, parfois chez certains, d'être trahis, notamment par les choix politiques. Quand De Gaulle parle d'autodétermination, quand il engage la France dans ce qui sera à terme l'indépendance, l'acceptation de l'indépendance, eh bien ces soldats qui se sont battus et qui croyaient, peut-être à tort, soldats perdus, dit-on, à tort, faire leur devoir jusqu'au bout, eh bien il y a eu un sentiment d'avoir été trompé, trahi par le pouvoir politique. Il y a ceux aussi qui, en humanistes qu'ils étaient, je parle des officiers des SAS, de ces sections administratives spécialisées, avaient œuvré dans une pacification qui se voulait humaniste, qui se voulait proche des Algériens et qui ont peut-être à tort pensé que tout cela n'avait servi pour rien. Et d'où le silence qui parfois a accompagné le retour de ces millions de soldats qui n'ont pendant longtemps pas voulu, je dirais, communiquer sur leur vécu. Et puis il y a alors la culpabilisation collective, qui est la nôtre, pas simplement celle de ces soldats. C'est de découvrir progressivement, puisque 50 ans après, les documents l'attestent, les études le démontrent, et personne ne peut en contester la réalité, que le comportement de certains n'a pas été conforme à l'idée que l'on peut se faire d'une armée de la République, la pratique de la torture, certaines corvées de bois, certaines formes de ratissage ont pu donner lieu à des excès. On ne peut pas oublier aussi que des viols ont pu être commis, que des violences diverses, contre des combattants, certes du FLN, mais aussi contre des civils, dans les douars, ont pu affecter de telles ou telles unités. On sait aussi que les atrocités ont été le fait du FLN. Le massacre de Meloussa, ces règlements de compte entre factions du FLN ne peuvent pas non plus être oubliés. Et puis il y a aussi ce malaise que peut engendrer chez certains le fait que des Français aient pris fait et cause pour le FLN. C'était leur choix politique, idéologique. Certains l'ont fait alors qu'ils étaient sous les drapeaux. Ce furent des déserteurs qui ont pris le risque de quitter leur unité pour passer dans le camp d'en face. Ça interpelle nos consciences de citoyens. Cela aussi fait partie, je dirais, de cette gangrène. Surtout si on reste toujours dans une analyse factuelle de la guerre d'Algérie, sans essayer d'aller au-delà. Et je crois que c'est peut-être l'objet aussi d'une commémoration, et non pas d'une célébration, comme celle du 19 mars, qui peut permettre, non pas de revenir sur la guerre en elle-même, elle est ce qu'elle est, il faut assumer notre histoire, mais qui peut permettre aux gens de reposer le problème dans une toute autre dimension. Et je crois que les anciens combattants, quand ils nous invitent à commémorer avec les anciens combattants d'Afrique du Nord, quand ils nous invitent à commémorer avec eux le 19 mars, n'attendent pas autre chose que de nous transmettre un message de paix, un message de réconciliation. C'est vrai, ça ne répond pas à la question fondamentale, pourquoi cette guerre ? Pourquoi avoir vécu ce qui a été vécu ? Peut-être ça n'efface pas bien des points d'ombre. L'histoire, elle, apportera sa réponse. Mais je crois que comme le faisait un prix Nobel de la paix après la Seconde Guerre mondiale, il y a matière à espoir en recherchant dans la réconciliation une autre issue. Et je terminerai par cette phrase de ce prix Nobel, Ralph Bunche. Nulle voix n'est plus qualifiée pour s'élever en faveur de la paix que celle des hommes qui ont combattu dans les guerres.
Belle phrase comme conclusion. Vous avez des livres à
quelques
nous proposer
ouvrages, oui, pour ce...
sur cette question.
Alors il y en a beaucoup et certains continuent de paraître. J'aurais la pudeur de ne pas vous les indiquer ne les ayant pas lus. Alors, pour ceux qui veulent une vision chronologique, classique de la guerre d'Algérie, c'est un livre bien écrit, je dirais sous une forme assez habituelle, de Pierre Miquel, La guerre d'Algérie, qui a été édité par Fayard. C'est écrit en petit. Le deuxième volume que je vous recommande, c'est un titre évidemment qui pose problème. La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie 1954-1962. Cet ouvrage est le résumé d'une thèse d'histoire qui est parue chez Gallimard par Raphaël Branche. C'est le problème donc qui est là pour Benjamin Stora, la gangrène de cette guerre, la torture, et qui fait évidemment l'éclairage sur les pratiques et les conséquences. Pour ceux qui veulent une vision un petit peu plus politique et ponctuelle, c'est « Scène de la guerre d'Algérie en France ». L'auteur, Jean-Luc Enaudi, revient sur l'automne 61, ce moment où la déchirure devient très forte et où en France on est à la fois confronté au terrorisme du FLN chez nous, auquel s'est ajouté celui de l'OAS. Et enfin, pour ceux qui veulent réfléchir, je dirais, à l'idée de colonialisme, est-ce que les colonies valaient le coup ? Est-ce que l'Algérie était un bien ou un mal pour nous ? Eh bien, c'est le livre de Daniel Lefeuvre que je vous recommande, titre ambigu s'il en est, « Cher Algérie, la France et sa colonie de 1930 à 1962 ». Un livre qui n'est pas toujours facile à lire, mais qui apporte des éclairages pertinents sur quelques questions d'économie, de société, et peut-être aussi mise en perspective avec l'Algérie actuelle. Et puis, si vous le retrouvez, dans la revue « L'Histoire », numéro spécial, c'est un numéro qui est un petit peu ancien, le numéro 140 de janvier 91. Et c'est une revue, l'histoire, qui revient sur, je cite, « le temps de l'Algérie française, de la prise d'Alger 1830 hein, à l'indépendance 1962. C'est un choix d'articles par des historiens spécialistes de toutes ces questions coloniales, guerre coloniale, société, économie. On y retrouve aussi les tentatives de réforme, notamment celle de 36 du Front populaire, qui est le problème des Juifs en Algérie, le problème aussi du statut mal appliqué de 1947, qu'il faut revisiter avec un regard actuel. Je crois que ça fait déjà beaucoup.
Merci beaucoup, Henri Moisé.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.